Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. La guerre a repris en Syrie avec des bombardements massifs sur des convois humanitaires ou des populations civiles. À New York, les dirigeants du monde entier réunis à l'ONU ne peuvent que constater leur impuissance. Le reportage de Bertrand Galichet dans un instant. Le pape François dénonce un nouveau paganisme, le paganisme de l'indifférence face aux victimes de guerre. Le souverain pontife était à Assise pour clôturer les rencontres interreligieuses pour la paix. Mathilde Imberti était sur place. En France, le gouvernement serre la vis budgétaire pour tenir le déficit sous la barre des 3% l'an prochain. Les explications à suivre de Jean-Marc Chardon. Nicolas Sarkozy à Calais demain pour soutenir, dit-il, ceux qui sont victimes de la présence de 10 000 migrants dans la jungle. Nous en parlerons avec notre invité Daniel Fasquel, député maire Les Républicains du Touquet. C'est un nouvel échec pour la diplomatie internationale. Les combats ont repris de plus belle en Syrie, malgré l'accord de cessez-le-feu négocié par les Russes et les Américains. Hier soir, un raid aérien a frappé un convoi humanitaire près d'Alep, faisant une vingtaine de morts. L'opposition accuse le régime et son allié russe d'être à l'origine de ce carnage, ce que démentent Damas et Moscou. Par ailleurs, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des bombardements à coups de barils d'explosifs ont tué au moins 39 civils, toujours à Alep. Le baril est l'arme favorite du régime dans sa guerre contre les quartiers rebelles. À New York, la communauté internationale, réunie en Assemblée générale à l'ONU, ne peut que constater son impuissance. Barack Obama lui-même semble incapable de trouver la solution. Quant à François Hollande, il a une nouvelle fois insisté sur la responsabilité de Bachar al-Assad dans la tragédie syrienne. Bertrand Galichet, vous avez suivi les interventions des deux chefs de l'État à la tribune des Nations Unies.
Pour son dernier discours à la tribune des Nations Unies, centré sur les grands principes de gouvernance mondiale, Barack Obama a en quelque sorte douché les espoirs d'une paix rapide en Syrie. Le dossier syrien n'a occupé qu'une place infime dans son intervention. Dans un pays comme la Syrie, où il n'y aura pas de victoire militaire, nous allons devoir poursuivre le difficile travail de la diplomatie qui vise à mettre fin à la violence et à apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Le président américain a surtout pointé du doigt la Russie qui, selon lui, tente de retrouver par la force son ancienne gloire, avant d'ajouter, sur la durée, cela diminuera son rang dans le monde et rendra ses frontières moins sûres. Des propos virulents tempérés en coulisses par le secrétaire d'État John Kerry. Après une réunion de 23 pays dans un palace de New York, le secrétaire d'État assure que le cessez-le-feu en Syrie n'est pas mort. Et quand François Hollande est monté à la tribune, le ton était très différent.
Le dernier appel que je veux lancer ici est peut-être le plus pathétique. Il concerne la Syrie. Cette tragédie syrienne sera devant l'histoire une honte pour la communauté internationale si nous n'y mettons pas fin rapidement. Alep est une ville aujourd'hui martyre, qui restera dans la mémoire des nations comme une ville martyre. Des milliers d'enfants sont écrasés sous les bombes. Des populations entières sont affamées. Des convois humanitaires sont attaqués. Des armes chimiques sont utilisées. Eh bien, je n'ai qu'un seul mot à dire. Ça suffit.
Le régime syrien est responsable de son échec, ajoute le président français, qui exhorte les soutiens étrangers de Damas à forcer la paix.
Bertrand Galichet, envoyé spécial de France Culture à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et comme en écho aux discours entendus à l'ONU, le pape François a dénoncé aujourd'hui le virus de l'indifférence face aux victimes de guerre. Le souverain pontife s'exprimait à Assise, en Italie, en clôture des 30e rencontres interreligieuses pour la paix. Le pape a déploré l'irruption d'un nouveau paganisme insensible aux souffrances du monde. Le reportage de Mathilde Imberti.
500 dignitaires religieux, toutes les confessions, sont réunis sur l'esplanade de la basilique Saint-François, là où en 1986, Jean-Paul II inaugurait les premières rencontres interreligieuses d'Assise. 30 ans plus tard, face au terrorisme, les religions portent plus que jamais une grande responsabilité, affirme le pape François.
Diverses sont les nostre traditions religieuses.
Nos traditions religieuses sont diverses, mais la différence n'est pas un motif de conflit.
Non ci stanchiamo di ripetere che mai il nome di Dio.
Ne nous lassons pas de répéter que jamais le nom de Dieu ne peut justifier la violence. Seule la paix est sainte, pas la guerre.
Il nostro futuro
Notre avenir est de vivre ensemble. C'est pourquoi nous sommes appelés à nous libérer des lourds fardeaux de la méfiance, des fondamentalismes et de la haine.
Dans le sous-sol de la basilique, une bougie est allumée pour chaque pays touché par la guerre. La Syrie en fait partie. Une réfugiée d'Alep témoigne de l'éclatement de son pays. Le pape François dénonce le silence assourdissant de l'indifférence face aux victimes de la guerre.
Mathilde Amberti, notre correspondante en Italie. Deuxième journée de violence aujourd'hui à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Selon l'opposant Félix Tshisekedi, au moins 5 personnes ont trouvé la mort dans l'incendie du siège de son parti, l'UDPS. 2 autres sièges de formation de l'opposition ont été incendiés la nuit dernière. Hier, plusieurs milliers de personnes avaient réclamé le départ du président Joseph Kabila, rassemblement réprimé par la police du régime. L'opposition parle d'une 50aine de morts. C'est le dernier budget du quinquennat Hollande. Le gouvernement a présenté aujourd'hui son cadre budgétaire pour 2017. Jean-Marc Chardon, ce cadre repose sur des prévisions optimistes, avec une croissance soutenue et un déficit sous la barre fatidique des 3% du PIB.
Et voilà, c'est le langage de la rigueur. On ne badine pas avec la règle des 3%. Ramener le déficit sous la barre des 3% en 2017, Michel Sapin table sur 2,7% en parlant déjà au futur, comme s'il était assuré de le réaliser, alors que cet objectif 3%, c'était celui de 2013, celui de Jean-Marc Ayrault. Alors reste que le ministre de l'économie apparaît certain que sur le quinquennat, eh bien, il aura effacé les déficits accumulés depuis 2008. La vraie question, c'est aujourd'hui quand même de savoir si le gouvernement est en capacité de le faire. Michel Sapin ne minore pas l'effort, ça signifie 5 milliards de mesures de redressement supplémentaires. Elles correspondent ces mesures à des dépenses augmentées dont l'éducation, la sécurité, le soutien à l'emploi, les allègements de taxes dirigées vers les PME et les artisans qui devront être compensés. Alors où seront réalisées les économies? Eh bien les administrations de la sécurité sociale, dit-il, des collectivités locales qui devraient ralentir encore leurs dépenses de fonctionnement, des rentrées fiscales issues de la traque à l'évasion fiscale et puis des économies supplémentaires effectuées sur la charge de la dette. Le tout additionné, on dépasserait en effet les 5 milliards d'euros. A priori, ça semble possible. On voit tout de même que pour ce faire, une moitié au moins de ces économies ne sont pas à la discrétion du seul gouvernement et qu'ensuite, eh bien, il reste l'inconnu de la croissance. Le gouvernement reste campé sur 1,5%, pronostic souvent jugé un peu optimiste. C'est vrai qu'on ne décrète pas la croissance à l'instant.
Jean-Marc Chardon, merci. En tout cas, ce budget 2017 devra intégrer les projets pénitentiaires du garde des Sceaux. Pour en finir avec la surpopulation carcérale, Jean-Jacques Urvoas veut construire d'ici 2025 entre 10 000 et 16 000 cellules supplémentaires, la plupart individuelles. Dès l'an prochain, 4355 places en maison d'arrêt devraient voir le jour. Bref, le gouvernement a choisi d'augmenter la capacité des prisons françaises. Une logique dénoncée par le syndicat de la magistrature qui refuse le tout carcéral. On écoute sa secrétaire générale Laurence Blisson.
On n'a eu aucune annonce sur le milieu ouvert de la part de Jean-Jacques Urvoas et c'est vraiment incroyable d'entendre qu'on se fourvoie encore dans la construction de places de prison. Plus on construit des peines de prison, plus on les remplit, plus on construit des places de prison, plus on les remplit et donc on ne résout jamais le problème. Ce qu'il faut encore une fois, c'est aller vers plus de complexité. Un aménagement de peine, c'est tout un travail social, tout un travail d'accompagnement qui doit être financé. Aujourd'hui, on voit bien que les 3 milliards, ils vont aller dans de la pierre, ils vont aller dans du barreau. Et ça, pour nous, ça n'est pas acceptable. On n'a pas besoin de cellules nouvelles pour désengorger les prisons. Ça n'est pas comme cela que ça fonctionne. On a besoin de ce budget pour faire de la réinsertion, pour faire du suivi en milieu ouvert, pour donner du contenu à des mesures qui vont, elles, permettre de lutter et de prévenir efficacement la récidive. Ce budget, on en a besoin en milieu ouvert.
Laurence Blisson du syndicat de la magistrature, elle répondait à Salomé Parent. L'actualité politique, alors que la campagne de la primaire à droite s'ouvre officiellement demain, Nicolas Sarkozy, lui, sera à Calais. L'ex-président ira à la rencontre des Calaisiens, confrontés à l'afflux de migrants qui tentent de passer en Angleterre. On en parle avec notre invité, Daniel Fasquel, député maire Les Républicains du Touquet. Bonsoir.
Bonsoir.
Daniel Fasquel, demain à Calais, Nicolas Sarkozy n'ira pas voir les migrants de la Lande. Alors pourquoi ce choix ?
Nicolas Sarkozy veut d'abord et avant tout s'adresser aux Calaisiens, aux acteurs économiques qui souffrent de cette situation, mais également aux habitants de Calais qui font preuve d'une incroyable patience, eux qui ont à subir la présence des migrants. Ils étaient 900 quand Nicolas Sarkozy a été battu en 2012 et quand François Hollande a été élu. Ils sont 10 000 aujourd'hui et cette situation est devenue purement et simplement insupportable. Donc nos concitoyens ont besoin qu'on soit à leur écoute et on parle beaucoup, beaucoup des migrants, très, très peu et trop peu des habitants de Calais. Et Nicolas Sarkozy veut d'abord et avant tout s'adresser à ses habitants.
Mais voir le camp de la Lande peut permettre à Nicolas Sarkozy de bien comprendre, de bien mesurer la situation.
Écoutez, il connaît très bien ces sujets. Il a visité X fois le camp de Sangatte. Et d'ailleurs, ça a été le seul homme politique à l'époque français à se rendre en Sangatte. Je sais que les responsables de gauche, y compris quand ils étaient au gouvernement, ont toujours évité de venir à Sangatte, hein, cacher cette misère que je ne saurais voir. Donc ce sont des sujets qu'il connaît par cœur. La situation des réfugiés, il la connaît. Par contre, il a besoin de montrer aux Calaisiens qu'en tant que grand responsable politique français, il est à leur écoute.
Alors, les associations parlent de 10 000 migrants présents à Calais aujourd'hui. C'est une estimation qui correspond à la réalité, selon vous ?
Je pense que c'est malheureusement la réalité. C'est devenu le plus grand bidonville d'Europe. Et c'est la conséquence directe d'une volonté politique, la volonté du gouvernement de créer ce camp. Et franchement, c'est absurde puisqu'on sait que l'essentiel de ceux qui sont dans ce camp sont des réfugiés économiques qui devraient être reconduits chez eux. Or, la plupart des arrêtés de reconduite à la frontière ne sont pas exécutés malheureusement dans notre pays. Et puis pour le reste, ils souhaitent aller en Angleterre. Et donc ce que dira demain Nicolas Sarkozy, c'est que bien évidemment, ceux qui sont dans l'attente d'une autorisation de résidence sur le territoire britannique, ceux qui font faire une demande d'asile en Grande-Bretagne, ils doivent se trouver bien évidemment en Grande-Bretagne et non pas en France. Et ce sera l'occasion aussi de dénoncer le plan Cazeneuve. Quand Nicolas Sarkozy a mis fin à Sangatte, les 4000 réfugiés qui étaient à Sangatte sont allés en Angleterre. Et c'était les accords du Touquet. Dans le cadre du plan Cazeneuve, ils ne sont pas 4000 mais 10 000. Et au lieu de les envoyer en Angleterre, on veut les fixer en France et les renvoyer en France.
Ça, vous le contestez ?
Mais bien sûr, c'est une situation absolument absurde. Ces réfugiés veulent aller en Angleterre et on leur propose de s'installer en France. Mais de toute façon, ils ne resteront pas dans les endroits où on veut les envoyer. Et très franchement, créer des mini-calais partout en France, ça n'a absolument aucun sens. Donc la solution, elle n'est pas là. La solution, elle est de faire le tri entre les réfugiés économiques qui doivent rentrer chez eux, les réfugiés politiques qui veulent aller en Angleterre, eh bien, il faut qu'ils puissent être traités en Angleterre. Et de ce point de vue, et sur ce point, il faut revoir les accords du Touquet. Et les réfugiés politiques qui veulent venir en France, bien évidemment, dans le cadre de la tradition d'asile de notre pays, il faut instruire leur demande au plus vite et leur permettre de s'intégrer en France pour ceux qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays parce que ces pays sont en guerre, parce que politiquement parlant, les régimes autoritaires les brimeraient, voire même mettraient leur vie en danger s'ils rentraient chez eux. Donc je crois que la solution, elle est là, et il n'y en a pas d'autre.
Selon vous, Daniel Fasquel, les réfugiés économiques sont aujourd'hui largement majoritaires à Calais ?
Le drame, c'est que en fait, aujourd'hui, on ne sait pas très bien qui est dans la jungle de Calais. Alors, d'après les renseignements que nous pouvons avoir, une partie d'entre eux, en tous les cas, sont des réfugiés économiques. C'est absolument évident. Mais ce qui est évident également, c'est que l'essentiel, on dit 80% d'entre eux veulent aller en Angleterre. Je ne sais pas si ce chiffre est exact. Mais enfin, vouloir fixer en France des réfugiés, qu'ils soient économiques ou politiques, qui veulent aller en Angleterre, ça n'a absolument aucun sens. Et puis surtout, c'est une solution qui ne sera que provisoire, parce que quand on aura vidé la jungle de Calais, comme dans le même temps on n'aura pas pris les mesures qu'il faut à nos frontières et que dans le même temps on n'aura pas non plus pris les mesures qu'il faut pour éteindre les conflits horribles que subissent ces populations, je pense notamment en Syrie, le flux ne se tarira pas et donc on peut vider peut-être la jungle de Calais là, mais dans un an, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on aura à nouveau 10 000 réfugiés à Calais. Donc on voit bien que ce sujet est complexe et qu'on ne peut pas l'aborder que par un aspect et que bien évidemment il faudra aussi entendre les propositions, Nicolas Sarkozy en fera, d'un nouveau Schengen, un Schengen 2, et puis il faudra aussi une autre politique étrangère pour notre pays. Moi, très franchement, je ne comprends plus rien à la politique étrangère de la France, que ce soit en Libye et en Syrie. On sait très bien que le problème vient des situations de guerre ou de déstabilisation politique que vivent ces pays.
Daniel Fasquel, député maire du Touquet, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Le temps demain, grisaille le matin, éclairci l'après-midi sur la plupart des régions. Le temps sera plus agité des Alpes à la Corse avec des averses orageuses. Des nuages arriveront sur la moitié ouest, en fin de journée. Des pays de la Loire à la Normandie en passant par la Bretagne. Température maximale 18 à 23 degrés sur la moitié nord, 20 à 27 au sud de la Loire. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.